Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? La dernière de 2020, mais pas la moindre. Hein? Enfin, on va passer à d'autres choses en 2021, on l'espère. Merci d'ailleurs d'avoir été des nôtres tout au long de cette saison où on analyse et on réfléchit sur l'actualité de la semaine. Comme à chaque semaine, j'ai quelqu'un d'extraordinaire avec moi. Cette semaine, hein, on ne déroge pas. Et c'est le grand retour de Mme Joanie Riendo. Bonjour Joanie.
Salut Pierre.
Comment vas-tu?
On a-tu hâte que cette année-là finisse?
Ouais, on dirait que ça... J'espère que ça va juste... Tu sais, comme si on... Je sais pas, enlever un plaster, là, tu sais, un diachylon, je m'excuse. Tu sais, de faire... comme si... Mais ça sera pas miraculeux comme ça, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que ça va faire du bien quand même de sentir qu'on passe à d'autres choses.
Oui, ça va être symbolique, là. Mmh. Ça va être... on va faire quelque chose. Moi, je sais, puis j'invite le monde à le faire en tant que blague, là, à 23h59, toutes devant nos télés, en plein dans le bye-bye. On crie tout en même temps. Jumanji pour finir cette grosse épreuve qu'est 2020. Parce que quand même, 2020, on a parlé beaucoup de COVID, ouais. Mais au début de l'année, il y avait des incendies en Australie. Il y a eu tellement de choses que 2020, on a fait...
Donald? Ah! Ouais, écoute, on peut parler de plein d'affaires. Écoute,
ouais, c'est... Que je pense qu'on a mérité de crier tous ensemble Jumanji à 23h59, le 31 décembre 2020.
Super, mais je vais peut-être être déjà couché. Mais bon, on va voir. On va décoller ça en parlant de Noël.
Oui.
Parce que Noël s'en vient. Là, il y a plein de gens qui capotent parce que Noël, cette année, va être différent. Qu'on le veuille ou pas, Noël va être différent. Il n'y aura pas de grand party de Nouvel An. Noël va être limité. Là, on parlait de 10 personnes, mais moi, je ne serais vraiment pas surpris qu'on limite ça aux familles immédiates. C'est triste, là. Je suis pas. J'aimerais bien mieux faire des gros parties, peut-être avec plein de monde, puis avoir du fun.
Ça nous ferait du bien.
Mais ça nous ferait du bien. Mais la réalité, c'est pas ça. Donc, ma question pour toi, qui est pleine d'imagination et de ressources, comment trouver son bonheur à Noël? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Comment on pourrait réussir à garder tout ça? Moi, j'ai certaines pistes de solutions. Je te parle des miennes. Tu sais, souvent, on va voir un peu le même monde, la famille proche, les gens, tout ça. Mais là, avec le COVID, on a réalisé qu'on peut beaucoup se parler via le web, là, avec des Zoom, Teams et puis toutes les plateformes qui existent, Messenger et autres. Et là, je réalise que je parle davantage à mes amis en Europe, un peu partout dans le monde. Mais c'est aussi simple, là, en fait. Mais on a comme on est loin, on n'a pas pris cette habitude de se parler là de manière régulière. Et là, on peut le faire. Fait qu'ils ont décidé pour Noël d'essayer de communiquer avec le plus de gens possible un peu partout dans le monde pour voir comment ça se passe puis prendre des nouvelles. Parce que la technologie nous permet ça, puis ça fait un peu un baume sur la plaie de tout le monde, là. Mais bon, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu vas faire?
Bien, c'est différent cette année, c'est sûr, mais moi, je me dis que c'est peut-être une occasion de remettre les valeurs aux bonnes places.
Parce que... je savais même pas que tu avais des valeurs.
Je n'ai pas que des valeurs monétaires. Hein, puis je pense que mes
blague,
opinions ont de
t'es
la valeur.
Une super personne, là. Je suis
venez me doser, vous allez voir, vous ferez votre propre opinion. Mais... pour le temps des fêtes, remettre nos valeurs à bonne place dans le sens où, pendant toute l'année, étant donné la situation, on a pensé à l'achat local. Pourquoi pas? Premièrement, on a beaucoup d'entreprises qui sont encore ouvertes dans le cadre de l'achat local. Donc, c'est l'occasion de dire « j'en achète moins, mais je les envoie puis je fais découvrir mes achats locaux aux personnes qui sont à l'extérieur. Mm-hmm. » Donc ça, c'est déjà une première chose parce qu'on a de grandes tendances. Là, présentement, la tendance que je vois auprès de mes amis, c'est d'acheter sur Amazon ou sur des grands sites puis les faire livrer à la personne. Alors qu'il y a un effet. Il y a un effet de l'emballer, de l'envoyer, de profiter par la
d'écrire,
poste.
D'écrire, puis des fois, même pas même un cadeau, là. Écrire une carte de Noël avec juste nos émotions, notre ressenti. Je pense que ça, c'est semer du bonheur aussi, puis ça fait du bien. Imaginez, là, tu reçois une carte de Noël avec...
Une vraie écriture!
Je trouve que ça peut mettre du bonheur.
C'est un cadeau, hein, que nous autres, on a fait d'habitude, là. Étant donné qu'on est des nouveaux arrivants, on connaît très peu de personnes dans la région, même si ça fait 4 ans qu'on est ici, on n'a pas de famille dans la région non plus. Bien, d'habitude, dans le temps des fêtes, là, on faisait 1000 km dans la semaine. Avec nos deux chiens, parce que c'est 150$ faire garder nos deux gros chiens dans le temps des fêtes par jour.
Okay.
Par jour. Donc, nous autres, c'était tout qu'un casse-tête vivre le temps des fêtes. Mais là, au contraire, on a déjà commencé à faire une photo ludique de la famille avec les deux chiens. Nous autres, ça a été une année assez particulière. On a refait notre cuisine. Ma fille a eu 2 ans. Il y a eu beaucoup de changements dans notre vie, du positif. Puis on l'a tout retourné au ridicule avec une photo. Puis on l'a mis dans une carte de Noël, puis on a envoyé des cartes de Noël à des gens qu'on ne faisait pas de cadeaux d'habitude.
Oui, oui.
Avec un mot en disant « je m'ennuie de toi » et chacun personnalisé à propos de l'année, puis que c'est quoi nos bons souvenirs, puis c'est quoi les qualités qu'on retrouve chez cette personne-là.
Parce que des fois, on apprécie les gens pour plein d'affaires, pour les services qu'ils nous rendent, pour leur bonne humeur, tout ça, mais juste prendre le temps de le dire. Souvent, on le sait, puis on va en parler aux autres. Hein, cette personne-là est tombée gentille. Chaque fois qu'on arrive,
mais plein de beaux sourires. Mais je l'écris, c'est de laisser une marque.
De
laisser une marque.
Pour la santé mentale de tous, je pense que c'est ça.
Ben oui, puis s'envoyer des photos. Une photo, présentement avec ton cellulaire, on est tous capables d'en prendre, de faire un petit montage. Il y a plein d'outils qui peuvent se faire. Une photo, non? C'est 22 scènes. Chez Jean Coutu, le faire imprimer. Tu peux les faire imprimer par Internet. Tu vas la chercher à ta pharmacie la plus proche.
Il clive ça par la poche.
Oui. Puis tu le mets dans des cartes que tu achètes au Dollarama ou que tu achètes dans un commerce local.
On les fabrique, nous autres, les
ben
cartes.
Ben oui, regarde. Ça,
c'est un carton en deux, puis tu fais faire un dessin pour les enfants.
C'est pas plus compliqué que ça. Quand je dis remettre les valeurs à la bonne place, des fois, c'est ne pas avoir pensé qui fait le plus gros canot ou je m'endette. Non, on a le temps, on a l'énergie, on a eu le temps de repenser cette année. Bien, c'est une belle façon de souligner, de vivre ces valeurs-là.
Oui, puis je pense aussi qu'avec la pandémie, il y a des gens qui sont plus précaires au niveau financier parce que, bon, on a perdu des emplois, etc. On ne sait pas ce qui s'en vient. C'est pas le temps de s'endetter. Ben faire
non.
plaisir aux gens, c'est pas nécessairement dépenser.
Bien, moi, je vais te donner deux idées de partie de Noël qu'on a eues. Moi, dans le cadre de mon travail, je sais qu'il y a des collègues de travail qui vont l'écouter, puis j'ai deux surprises, mais je vais en dévoiler juste une. Bien, c'est pas une surprise, c'est que nous, on avait toujours un échange de cadeaux. On a mis entre 20 et 40 $ on a mis les noms, puis on a fait le principe du Somme des Chris.
Je connais pas.
Le Somme des Chris, c'est on fait tous des cadeaux, on prépare, puis on a des collègues de travail à travers le Québec.
Ouais.
Alors, ceux qui sont dans la même ville que nous, si on a pigé quelqu'un qui est dans la même ville ou dans une ville à proximité, une fois qu'on a emballé le cadeau, on dépose le cadeau, on frappe ou on sort, puis on est Chris. Faut pas que la personne devine qui l'a fait et on a le droit de la déballer seulement à notre party du 17 décembre prochain.
Ah, cool.
Donc, c'est très ludique, c'est drôle. Puis on a donné comme thème à notre échange de cadeaux nos passe-temps. Donc, pour découvrir qui fait de la peinture, qui fait de la chanson, qui veut s'initier à telle ou telle chose. Donc, c'est une belle façon de finir l'année. Puis on a revisité un autre jeu qu'on connaît. Mais étant donné qu'on travaille pour la promotion du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme milieu de vie, on va faire un Categories Maison on va piger. Moi, en tant qu'animatrice, je vais piger une lettre. Puis les gens vont avoir une liste, un lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, wow. Un commerce au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ils doivent remplir la feuille.
Ah, c'est chouette.
Sur virtuellement. Ouais. Donc, c'est pas grand-chose. Puis.
Ça dégasse, tu sais, puis ça fait qu'on se sent moins seul, puis qu'on a l'impression de fêter.
Oui,
puis en plus, hey, on peut se saouler devant notre ordinateur, on n'a pas à prendre l'auto!
Hey! Mais c'est ça, puis t'as pas à trouver une gardienne, t'es ouais. capable de fêter, il y a plein de façons. Puis tu sais, ça, c'en est une. Là, je vous ai parlé de deux choses, mais le party de Noël, on l'a réinventé, on a pensé, puis ça n'a pas été si cher que ça, là.
Mais non.
Puis on fait l'effort de s'habiller chic, puis on fait l'effort de...
Mais juste le haut, parce qu'on ne voit pas le bas à caméra.
Ah, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais mettre mes pantalons de pyjama de Noël, tout chic en haut, mais si j'ai besoin d'aller aux toilettes, le monde va rire, parce qu'ils vont voir mes pantalons avec des petits rings au nez rouge. Mais un autre party de Noël qu'on a, c'est la famille proche, où d'habitude, on se fait un échange de cadeaux aussi. Mais étant donné que beaucoup des membres de notre famille ont perdu leur emploi ou autre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on se faisait un échange de cartes. Mais les cartes, comme on s'est parlé tout à l'heure, il fallait qu'elles soient faites à la main. Il faut qu'elles soient faites à la main. Mais il faut aussi qu'on dise pourquoi on aime cette personne-là.
Hein? Partir des bons sentiments.
Partir des bons sentiments, puis les souhaits qu'on y offre. Donc, c'est un effort à faire. Puis le recevoir, on ne reçoit plus rien par la poste sur des factures.
Ouais, c'est bien.
C'est une belle façon de souligner puis qui coûte rien. Rien.
Ben nous, on reçoit beaucoup par la poste parce qu'on a tout commandé dans les commerces locaux qui nous envoient ça par la poste. On est content. Nous autres, une idée qu'on fait depuis des années, puis c'est peut-être une bonne idée, si on n'a pas de sous, c'est de faire un échange de cadeaux, mais de choses qu'on ne se sert plus à la maison.
Ouais,
on a tous, là... mon père, il y a trois drills. C'est pas vrai qu'il a besoin de trois drills. Il peut en donner une. T'sais, c'est des affaires à un moment donné qu'on n'a pas tout le temps les moyens de s'acheter ou on pense pas. Puis quand on en a besoin, il faut l'emprunter. C'est des cadeaux niaiseux, mais super utiles.
Ben...
Moi, j'avais donné une grosse photo d'une de mes ex-copines. Ça va faire rire entre les amis.
Je sais pas si mais je la trouve bonne. Ben, moi, l'année passée, on avait fait ça comme thème à l'échange de Noël du travail. Puis c'était une collègue de travail que je savais qu'elle avait la dent sucrée. Donc, j'y ai fait un pot de brownies où il fallait juste rajouter les œufs puis le lait.
Ah.
Puis elle dit, c'est pas quelque chose que tu veux te débarrasser. Je dis, oui, moi, ce que je veux me débarrasser, c'est de mes calories. Elle l'avait trouvé bien drôle, mais elle était enceinte d'un diabète de grossesse. Mais je vais te dire, bien franchement, deux semaines après son accouchement, elle m'appelle, elle dit « J'ai perdu le papier, peux-tu me redonner la recette, s'il te plaît? » C'est temps que je l'efface. Donc, tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est, ça donne quelque chose à discuter. Donc, réinventer Noël. Nous, on sait qu'on va écouter c'est quoi les recommandations de la santé publique, mais on sait aussi qu'on n'est pas les seuls nouveaux arrivants qui n'ont pas de famille dans le milieu. On sait aussi que ça peut être difficile pour les personnes seules. Donc, on va voir comment on va pouvoir faire pour se faire en personne, mais à l'extérieur. On va s'organiser une randonnée pédestre? Donc, on est tous capables de garder une distance? On va-tu s'organiser quelque chose? Parce que là, ce qu'on va vivre présentement comme Noël, dites-vous que c'est le Noël d'une personne immigrante? Ou que sa famille est loin? Ou que c'est du Zoom, on mange devant l'écran? Puis tu... Donc, mettons-nous dans la tête que... Il y a des gens qui le vivent depuis des années. Un étudiant international, un nouvel arrivant ou autre, qui le vit ce Noël-là. Profitez-en pour demander des conseils.
Ben oui. On voulait un peu vous donner un peu de bonheur en début d'émission, mais on va revenir à l'actualité, ne vous inquiétez pas. On y revient maintenant, d'ailleurs.
Oui.
On va passer de Noël aux eaux usées.
La transition.
Mais on sait, c'est parce que la loi sur pour obliger les municipalités à transformer le, qui déversaient leurs eaux usées dans la nature avec des stations d'épuration, c'était en 2014, je pense. Et la date d'échéance, c'est le 31 décembre 2020. On sait que dans la région, il y a encore 12 municipalités qui n'y arrivent pas. Il y en a qui ont des délais, qui trouvent ça cher. Puis oui, c'est dispendieux quand tu as une petite municipalité. Bon, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une petite municipalité puis que ça dépasse les moyens de la municipalité, tu sais, parce que ça reste important. Est-ce que c'est le gouvernement qui devrait aider davantage ces petites municipalités-là? Parce que ça, c'est des coûts, là.
C'est des coûts très importants. C'est des, tu sais, à chaque fois qu'on ouvre une rue ou une route pour, tu sais, que ce ne soit pour que la réparer, c'est énormément cher. Donc là, lorsqu'on installe un nouveau système, c'est déjà cher parce qu'il y a des municipalités qui n'ont pas le système de tuyauterie. Là. Il y a même à Dolbeau-Mistassini des places où c'est encore des fosses septiques. À Dolbeau-Mistassini, on parle en ville que c'est encore le cas. Donc, tu sais, quand même quand une grande ville, c'est encore le cas, il faut se poser des questions. Le système de gestion des eaux usées, c'est nécessaire parce que on parle de déchets humains. On parle de déchets... oui, il y a des déchets humains, mais il y a aussi les savons qu'on utilise, les médicaments qu'on utilise. Il y a plein de choses qui doivent être prises en compte pour notre environnement.
Qui s'en vont dans
l'environnement.
Parce que si c'était juste les déchets humains, mais ça fait du super compost. Mais c'est plus le mélange avec tout ce qui est chimique, et puis les shampoings, et puis les...
Mais tu sais, quand on dit ça peut faire de l'excellent compost, dans un centre d'épuration, dans les nouvelles générations, c'est ce que ça fait.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'ils font. Mais si ce n'est pas traité, ça reste mélangé dans des milieux où que ce n'est pas utilisé de manière efficiente et efficace.
Ouais.
Parce que c'est ça. Puis on n'oublie pas, tu sais, les gens qui jettent des affaires, qui n'ont pas d'affaires à aller dans la toilette. Ça aussi, ça se retrouve dans... Si ça ne passe pas par un centre d'épuration, ça s'en va directement dans dans nos cours d'eau qui sont encore fragiles. Il faut en profiter parce qu'on est une des provinces au monde, un des territoires au monde où on a le plus d'eau douce par kilomètre carré. Donc, on a cette richesse-là. Faut l'entretenir. Il y a cette problématique que, oui, les installations sont très chères, mais il y a aussi une autre problématique qu'on entend très peu aussi. C'est les professionnels dans le domaine. C'est pas n'importe qui peut gérer un centre d'épuration, peu importe sa taille. Il y a un seul endroit au Québec où ils forment les techniciens en épuration d'eau, c'est à La Salle, à Montréal. Il y a 12 à 20 finissants par année. Donc, c'est pas tout le monde qui va être prêt à venir travailler en région pour 10-15 heures semaine.
Non,
donc, le partage des ressources aussi dans ressources humaines. Donc, tu sais, faire une installation, d'un fois, il y a des villes qui le partagent avec d'autres.
Oui, puis on partage des ressources. On en parle souvent ici, là, entre les municipalités, le partage des ressources.
Partage des ressources humaines, mais partager aussi les installations. Tu sais, deux villes qui sont à proximité, se dire, bien,
avec la grandeur d'un territoire, ça devient complexe.
Ça devient complexe, oui et non, parce qu'il y a tellement de types d'épuration d'eau. Il y a les
Mon Dieu, tu t'y connais donc, bien.
Mais j'ai de la chance, j'ai un cousin qui travaille là-dedans puis qui est passionné, puis okay. il nous en parle. Okay. Donc, ça fait partie. Il travaille dans la plus grande centrale d'épuration au Québec, à Montréal.
OK.
Donc, tu sais, il y a plusieurs types d'épuration. Il y a des bacs d'épuration, puis dans l'idéal, c'est qu'il y a plusieurs bacs différents et l'eau traverse. Ouais. Donc, il y a des moments où ça stagne. Il y a la première qui est un filtre, des gros filtres. La deuxième, c'est que quand ça arrive à la fin, l'eau stagne pour laisser les sédiments descendre. Tu continues. Puis la dernière, c'est un traitement. L'avant-dernière, il y a un traitement chimique pour assainir l'eau de toute bactérie ou toute maladie, virus ou autre. Et le dernier, qui est la dernière génération, c'est avec un traitement aux UV pour stériliser l'eau avant de le remettre directement dans le système d'eau potable. Même pas besoin de passer dans le système naturel.
Okay.
Donc ça, on parle de l'ultra-qualité.
Ouais.
Ça, c'est génial. Mais dans notre situation, ça, on parle quand même 4 énormes cuves avec des équipements tous différents qui doivent être pris en compte. Donc, est-ce que c'est adapté à tout le monde? Non. Moi, ce qui m'intéresse à savoir dans les exigences du gouvernement, c'est quel est le taux de qualité de l'eau en sortant du centre d'épuration. Si le taux est trop élevé, peut-être que le gouvernement... Pour peut-être se donner une période de transition, parce que là, avec la pandémie, avec toutes les taxes, toute l'économie, là, même s'il y a des gens qui ont engagé de l'argent pour faire ça, hey, c'est tough. Val-Jalbert, ça a pris combien de temps? Puis on parle d'une installation touristique reliée à Roberval.
Mm-hmm.
Ça a été un sujet assez important. Là.
Oui, oui.
Donc, peut-être évaluer pour une continuité, parce que c'est nécessaire d'attendre au moins le 75 % d'eau propre à la fin de... puis ça, c'est 75 % pas de n'importe quoi, là, mais mm-hmm. Que l'eau soit clean, propre à 75 % bien, peut-être se donner une période de transition en se disant, OK, on va faire une première installation, on va assainir jusqu'à 30 % OK, à partir de 30 % il faut se dire, OK, puis avoir un plan d'action, dire dans 5 ans, on atteint le 70, on atteint le I à chaque étape. Le gouvernement du Québec... Ça investit quand même beaucoup, oui, mais c'est quand même des choix de population, de la population, puis des choix municipaux de savoir comment on les traite. Parce que c'est pas tout le monde qui va être d'accord d'avoir un grand bac à air ouvert qui pue le à côté de chez eux.
Oui, c'est ça.
Donc, ça reste quand même des choix politiques municipales. Donc, c'est... tu sais, il y a des pour et des contre de toutes les installations, puis ça demande de la formation, ça demande toute qu'une installation, puis des gens qui connaissent les équipements. Donc, puis il n'y en a pas beaucoup dans la région, là, juste dans le territoire de Maria-Chapdelaine, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire juste les prélèvements, pas les analyses chimiques, mm-hmm. là, être capable de bien faire les prélèvements d'analyse pour savoir si l'eau est potable, pas à la sortie, mais à l'entrée du système, à la rentrée du système d'eau potable. S'il faut qu'une personne qui fasse les échantillonnages, il n'y a pas grand monde dans la région qui sont capables de le faire, qui sont formés. Donc, quelqu'un qui va être capable de faire l'analyse à la sortie du champ d'épuration, on est à un autre niveau.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose... la problématique est beaucoup plus complexe qu'on le pense, mais c'est la responsabilité de chacun de s'impliquer dans le domaine politique pour savoir comment on va gérer ça. Parce que c'est important de le savoir comment. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui prend du papier de toilette normal, le papier de toilette, il se dégrade, il se défait dans l'eau. Ceux qui prennent les wipe-out, là, ou les lingettes pour bébé, là, laissez-le tremper dans l'eau en même temps qu'une toilette. Ça bouche des filtres.
Ah ouais.
Ça demande plus de coûts. Ça demande plus d'équipement. Donc, quand on se renseigne, on est capable de voir quel impact que nos comportements peuvent
faire. Donc, il y aura peut-être aussi la sensibilisation et l'éducation à faire auprès de la population à ce niveau-là.
Je ne sais pas si c'est une sensibilisation ou, moi, je pense que c'est à la population aussi de se demander qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui sort de ma maison?
Ouais, je comprends, mais tu sais, pour la majorité des gens, là...
C'est pas quelque chose qui est intéressant.
C'est intégré, là, tu sais. Ah, ouais, je flush, bye, ton nom. Ah oui, tu penses pas deux semaines après. Je me demande hein, où c'est que c'est parti, tout ça. Non, tu sais, je pense qu'il y a peu de gens qui font ça, puis t'as raison, faudrait peut-être se poser la question, mais je pense que par une sensibilisation, une éducation, on pourrait peut-être aider les gens, et ça, tu mets pas ça dans la toilette.
Bien, pour te dire, il y a des émissions pour enfants qui parlent de c'est quoi le système d'épuration, parce que ça a un impact. T'sais, le bus magique, en fait, dans la nouvelle édition, parle de ça, parle de plein d'éléments comme ça. Donc, on les a, les outils de sensibilisation, mais peut-être pas pour notre génération encore.
Ouais. Le bus magique, c'est pas tellement pour moi.
OK, moi,
on va parler de Dolbeau Misasini. Hein. Dolbeau Misasini avait développé un fonds d'aide aux entreprises. Et là, ça fait, je sais pas, 2 mois, même pas, il est déjà épuisé. Et là, je trouve que la ville a eu un bon réflexe. Ça marche, ça aide. Donc, on va doubler le fonds. Donc, on est passé de 125 000 à 250 000 pour faire perdurer ce fonds-là le plus longtemps possible avec l'aide de la ville.
Bien, il y a une chose qu'il faut dire tout de suite. C'est pas de l'argent perdu.
Ben non.
Il y a des gens qui, lorsqu'on parle de subvention, ils disent « ça aurait pu être mis ailleurs ». Dites-vous qu'une subvention comme ça, c'est des gens qui vont le dépenser au niveau local, qui vont faire dépenser les gens au niveau local, qui vont faire vivre le milieu. Si on abandonne nos entreprises, on abandonne des emplois, on abandonne une vitalité économique, on abandonne une indépendance.
Ce que vous faites en achetant sur, chez Amazon, d'ailleurs, là.
Oui.
Ben, mais c'est oui. Faut le dire. Hein.
Oui, oui. C'est...
Et en montant Chicoutimi au Costco, là, quand on a toute la disponibilité ici, là, sortez puis allez voir les gens.
Je peux pas dire mieux. Si ça a été doublé, ça veut dire que un montant aussi important qui a été subventionné auprès des entreprises locales, ça veut dire que les résultats, faut le voir comme un investissement et non comme un prêt ou comme une dépense. Quelle est la différence entre une dépense et un investissement?
Ben, c'est clair dans ma tête, là, mais j'attends de voir ton explication. Là.
Une dépense, c'est une sortie d'argent pour une sortie d'argent. Tu achètes quelque chose, puis tu sais que ça ne te reviendra pas.
Mais si tu achètes quelque chose, tu as eu quelque chose en échange. Donc, tu as investi dans un appareil, tu as investi dans un service, tu as investi
Par exemple, je dis, j'ai dépensé pour un pot de fleurs. Est-ce qu'il va me retourner de l'argent? Est-ce qu'il va me rapporter quelque chose qui a une valeur économique?
Le pot de fleurs?
Oui.
Ça, là,
à part être beau. Non. Mais moi, je peux dire que j'ai investi dans ma voiture. Pourquoi? Parce que quand je paye pour son changement d'huile, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai une voiture électrique, mais lorsque je paye pour son changement de pneu ou autre, je sais qu'elle va me durer plus longtemps, donc que je vais économiser à long terme, donc que je vais avoir un retour monétaire indirect. Lorsque j'achète une maison au lieu de louer...
Je comprends. Avec l'auto, par exemple, je ne suis pas certain que c'est un bon exemple.
Je dirais que ça dépend des réalités. Dans mon cadre de mon travail où je me promène, c'est un investissement parce que dans mon cadre, je suis payée au kilométrage et je ne paye pas d'essence. Donc, ça finit par payer mon auto.
C'est mon cas.
Mais par exemple, l'achat d'une maison est un investissement parce que si tu l'entretiens, elle ne fait que gagner de la valeur, donc à long terme. Donc, une subvention, il faut se dire que c'est un investissement municipal. Mm-hmm. Parce qu'à long terme, en gardant nos entreprises ouvertes, en gardant nos entreprises vivantes, pas juste ouvertes, vivantes, qui aident à innover, qui aident à se renouveler, qui aident à passer à travers la crise, bien, c'est se dire qu'on a des entreprises qui vont créer de l'emploi, qui vont créer du marché, qui vont créer de la vitalité. Donc, c'est à long terme un investissement. Il y a les investissements rapides, où qu'on se dit « je donne de l'argent, ça revient ». Mais il y a les investissements long terme et c'est eux autres qui sont les plus rentables parce que ça ne fait que croître quand c'est bien fait, quand c'est bien géré. Puis, ça veut dire qu'avec les personnes qui sont au développement économique de notre municipalité, bien, ça a été pensé en conséquence. C'est pas pour rien. Puis, comment la subvention a été faite, c'est très intelligent.
Mais de toute façon, il faudrait que quelqu'un m'explique, là, parce que souvent, quand on utilise le mot subvention, il y a une espèce d'idée péjorative dessus, comme si on quittait de l'argent, puis que. Non, mais que c'était, tu sais, comme pour nous. Non, mais quand on investit dans la grande entreprise, là, mais pourtant, c'est la même affaire, là. C'est des gens qui ont besoin d'argent pour développer, pour assurer leur pérennité. C'est la même chose, en fait.
Bien, c'est que les deux mots au niveau de la presse donnent deux choses différentes.
Ben,
la
oui.
subvention, c'est on dit, on a de l'argent disponible, faites une demande. C'est ça, une subvention. Lorsqu'on a un investissement, c'est que lorsque dans la presse, on parle d'un investissement de la part du gouvernement, c'est que c'est un montant qui n'a pas été annoncé et mis à la portée de tous. C'est une décision politique qui a dit « on veut mettre un montant important là-dedans ».
Je comprends bien, mais il reste qu'il y a quelque chose de péjoratif dans l'idée de la subvention quand c'est fondamentalement la même chose qu'un investissement.
Non. Même que, moi, pour moi, un investissement fait par le gouvernement, c'est plus... quand on l'entend dans les nouvelles, pour moi, c'est plus négatif qu'une subvention.
Mais l'idée, c'est de dire, il y a une entreprise qui a un projet ou il y a un OBNL, et là, ils ont besoin d'argent pour avancer, on leur donne cet argent.
Mais je vais t'expliquer pourquoi, moi, je trouve ça négatif. Lorsqu'on parle d'un investissement à une grosse entreprise, on en a parlé au cours de l'année, toi et moi. Lorsqu'on parle, par exemple, on a investi de l'argent, on a prêté de l'argent à Rio Tinto ou à autre, bien, ils n'ont aucun rapport. Ils n'ont pas la bâton. Ils n'ont pas le bâton. Ils n'ont pas le bâton. Ils n'ont pas, merci beaucoup de me reprendre, mais ils n'ont pas l'obligation de rendre des comptes. Mm. Ils n'ont pas. Donc, c'est
non, puis des fois, c'est parce que quand c'est pour l'entreprise privée, des fois, on fait oui, créateur d'emploi, je m'excuse, mais quand tu regardes, mettons, l'investissement qu'on a fait à la cimenterie Port-Daniel sur la Côte-Nord, je veux dire, on subventionne des emplois. Oui, c'est des emplois à 60 000 $. On en subventionne 40 000 sur ces 60 000 $-là. Ça devient débile, à un moment donné, d'investir dans des projets comme ça quand il y a des gens qui ont besoin. Et les petites PME, c'est eux qui ont besoin.
Mais il n'y a pas juste les PME, des OPNL. Ça a des employés.
Ben oui.
Ça, c'est des employés. Puis il y a des professionnels dedans. Donc, c'est pas juste l'entreprise qui crée de l'emploi.
Ben non,
des OPNL aussi créent de l'emploi.
Absolument.
Donc, la subvention, elle, lorsqu'on reçoit une subvention, quand ça a le terme de subvention.
On appelle l'économie sociale.
Lorsqu'un gouvernement l'envoie, c'est au moins deux fois. On reçoit jamais l'argent à 100%. La première, si on reçoit un premier chèque pour partir, après, il faut donner un avis en plein milieu de projet, comment ça s'est rendu, quels sont les problèmes, comment on va les régler.
Oui, mais c'est normal la reddition de compte, par exemple.
Oui, mais pas pour un investissement en entreprise privée.
Oh oui.
Alors que la subvention, elle, va te faire une restitution de compte. Ça, c'est une demi-parcours. Mmh. Puis après, tu as le rapport final de ton projet, et si ce n'est que de ton année. Et là, dans ton rapport final, c'est s'ils sont d'accord, ils t'ordonnent le reste du montant.
Oui, c'est ça. Il y a comme un rapport de confiance qui est différent à cause du type d'argent qu'on donne, mais fondamentalement, c'est la même chose.
Bien, le
on
montant...
On donne de l'argent pour
aider... On donne de l'argent, oui, mais l'OBNL a un bâton. Oui. L'entreprise privée a des félicitations, même s'il fait de mauvaises années, même s'il ne tient pas ses promesses.
Ah ouais. T'en connais des entreprises qui ont Hey, je t'arrête là-dessus. Je veux qu'on parle encore du marché de Noël extérieur à Debout-Mississigny. Ça va créer du bonheur. Je pense que c'est du 3 au 6 décembre.
Hey, je suis contente que la ville rentabilise les belles lumières qu'ils ont mis au-dessus de la 8e avenue.
Ben oui,
parce que c'est beau. Ma fille, là, elle a 2 ans et demi, puis on se promène, et waouh, à chaque fois. À chaque fois. C'est beau, c'est lumineux, c'est... Puis c'est le fun d'avoir le marché de Noël extérieur. Dans les années précédentes, je le voyais pas, ça.
Mm-hmm.
Et c'est une autre façon de renouveler, plus de place pour nos artisans locaux, plus de visibilité.
Plus d'espace entre les kiosques pour être anti-COVID.
Oui, anti-COVID. Puis moi, je vois, j'ai vu des entreprises locales qui ont des bureaux, par exemple, à la place Wahlberg. Puis, qui ont décidé, on se prend quand même une petite maisonnette, puis on va se faire des paquets cadeaux avec des thèmes en particulier. Donc, tu sais, c'est pas juste des artisans, là. C'est des idées cadeaux. Allez vous inspirer, vous allez encourager des entreprises locales. Et je la trouve très drôle. La librairie centrale, quand je suis allée faire un achat cette semaine dans le cadre de mon travail, il était en train de faire un kit de cadeaux. Puis, il disait... Je les ai entendus du coin de l'oreille, puis j'ai fait comme je suis partie à rire, puis après je leur ai répondu. La dame a dit, j'ai tellement l'impression de faire un kit d'alcoolique. Parce qu'il y avait un débouche-bouteille en forme de bouteille de vin, une bouteille de vin qui disait plein de choses très drôles. Et moi, je leur ai regardé, ben non, c'est le kit de secours de la maman à la maison depuis le COVID. Ah, le nom est pas mal plus vendeur.
Ça, c'est drôle.
Mais c'est ça, il faut en profiter. Quand on dit revoir, bien, pas obligé d'acheter, mais allez voir qu'est-ce qui se fait ici. Y a quand même un très bon choix, là. Les petites maisonnettes sont bien installées. Moi, j'ai hâte de revoir Manon Lamontagne avec l'entreprise Bohème. Ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu sur le territoire. Puis elle revient avec ses beaux tabliers, ses beaux ensembles qu'elle fait. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte, j'ai mes petits coups de cœur. Je vais aller visiter ça avec plaisir. J'ai
hâte de faire une émission en 2021 avec toi et que tu seras en tablier.
Mais pas juste en tablier,
pas juste en tablier. Hey, rapidement, j'ai une dernière petite nouvelle. Je veux parler d'Opération Nez Rouge qui fait une campagne de financement parce que on veut pas, ils vont faire de la sensibilisation pour l'alcool au volant via le web, via des plateformes, des capsules, etc. Mais il n'y aura pas de service de raccompagnement, on comprend pourquoi. De toute façon, je pense que les gens vont être pas mal pognés chez eux, là, donc la logique veut... Mais si vous trouvez que c'est un service important, moi je trouve que à partir de Nez Rouge, ça a changé le comportement de beaucoup de personnes au niveau de l'alcool au volant. Je tiens à les remercier, à leur dire bravo, puis je vais leur donner parce que de l'argent, selon mes moyens, bien sûr, mais parce que je trouve que c'est un organisme qui fait une belle job.
Bien, ils sont visibles seulement une période de l'année, mais le travail n'est pas que cette période-là.
Ben non.
Il y a des équipes permanentes qui travaillent à la sensibilisation à l'alcool au volant, mais aussi, Opération Nez Rouge, là, ce n'est pas que l'alcool au volant, c'est les drogues aussi au volant. C'est tout ce qui diminue les facultés.
Ouais.
Donc, c'est, ça fait partie de plein de choses. Donc, encourager. On ne verra pas les grands dons comme on a vu dans les années précédentes. Donc, choisissez un organisme que vous aimez, donnez.
Super. Hey, on s'en va à la pause?
Oui!
On revient tout de suite après la pause.
Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres?
La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité, ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours.
Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres.
Parce qu'il y a des routes et des ponts à construire. Parce qu'il y a des maisons, des immeubles, des arénas, des écoles, des usines et des hôpitaux à bâtir. Parce que le Québec n'arrête jamais de se moderniser.
On cherche du monde pour travailler dans le domaine de la construction. Il y a plein de métiers prometteurs et bien payés. Si ça te tente, c'est le temps.
Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit.
S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK?
Sans faute.
Prends soin de toi. Bye, bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi.
Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent.
Oh, on est de retour. J'espère que vous avez passé une super belle pause. On revient avec la suite de notre analyse de l'actualité de la journée, de la semaine. Et pour cette dernière émission de Qu'en pensez-vous 2020, vivement 2021, on en a tous très hâte. Joanie. Bon, on va tomber dans des sujets peut-être un peu plus sérieux.
Ouais.
On a eu, entre autres, des propositions pour contrer la violence conjugale. Et on a ramené l'idée des bracelets électroniques, autant pour le conjoint violent que le conjoint pas violent, pour savoir s'il y a des similitudes. On sait que ça a été testé dans des pays comme l'Espagne, comme la France, avec des résultats assez probants. Maintenant, ben là, on pourrait penser aussi que ça rentre en conflit avec nos libertés individuelles. Je ne sais pas, c'est quoi ton analyse là-dessus, toi?
Bien, faut savoir que présentement, on est dans les semaines de sensibilisation contre la violence conjugale. Donc, c'est le bon temps d'aborder le thème.
Il faut dire aussi que le COVID a été très difficile au niveau de la violence conjugale.
Il n'y a personne qui devrait vivre un confinement avec quelqu'un de violent. Point. Les personnes qui ont ces comportements-là, oui, ils ont de la détresse, mais rien n'excuse la violence. Rien.
Jamais.
Puis, tu sais, trouver des ressources, sortir de la maison, déménager en temps de COVID, c'est vraiment des défis pour les victimes de violences conjugales. Puis en plus, au cours de l'année et de l'année précédente, en 2019, il y a eu beaucoup d'infanticides puis de féminicides dus à des conjoints violents, soit qui étaient encore en couple, mais beaucoup plus des gens post-séparation. Parce que la violence, ça ne fait que très peu de temps que la violence conjugale est reconnue comme continuant après le couple. Même que c'est la phase la plus dangereuse pour les femmes vivant de la violence conjugale. Donc, ça peut prendre des années. C'est vivre dans un climat de terreur important. Puis présentement, la responsabilité est face à la victime. Bien, t'as pas d'affaire à le voir. Oui, mais comment tu veux? Il y a quelqu'un qui a donné mon adresse et se retrouve, OK, moi, je suis obligée de déménager parce que...
Il sait où j'habite.
Parce qu'il sait où j'habite, puis il n'y a pas de système qui me permet de me protéger. Tu sais, il y a... Présentement, le système donne la responsabilité à la victime. Tu ne veux pas le voir déménager? Oui, mais c'est lui qui m'a fait du mal. Ce n'est pas à moi de m'adapter. Tu Il a été reconnu coupable de... Il a été reconnu coupable d'un tel acte. Parce que quand on dit, tu sais, tu as apporté un bon point 10, que ça va limiter les droits. Limiter les droits, ça veut dire que la personne n'aura pas le droit d'avoir des comportements où ça va la brimer dans ses libertés. Mais la liberté de la victime de vivre dans un monde où elle n'a pas peur croiser quelqu'un de violent.
Oui, j'ai aucun problème avec l'idée des bracelets électroniques.
Bien, parce que je pense que c'est une bonne alternative, parce que quelqu'un qui est repentant, ça arrive.
Ouais.
Ça arrive. Bien, il a le droit de vivre sa vie. Il a le droit d'essayer. Et c'est pas à ces personnes-là que le bracelet électronique va nuire.
Mais non.
Parce que, au contraire, ces personnes-là, les personnes qui sont repentantes, ben c'est un très bel outil pour démontrer qu'ils sont repentants.
Oui, ils vont le démontrer assez facilement. Là, au bout d'un an, on va voir. Là, écoute, tu t'es jamais approché à moins de 5 km de la personne.
Tu t'es jamais approché. Tu nous as permis de tracer pas tant tes faits et gestes que
tes déplacements.
Puis, tu sais, dans ce processus-là, la personne, si elle doit quitter, bien, elle avertit le système policier où est-ce qu'elle s'en va ou autre. Donc, on brime pas la liberté. Au contraire, on la surveille, mais on ne la brime pas. On permet à la personne qui a été victime
de vivre normalement,
avec un sentiment de sécurité, avec la confiance que le système peut la protéger. Parce que présentement, les systèmes de justice il n'y a pas de traçage, il n'y a aucun, au Québec là, en tout cas, il n'y a pas de système qui permet de surveiller en temps réel ou à un temps raisonnable les personnes qui sont ex-détenues de crimes violents. Il y a même les maisons de transition, ils n'ont pas d'outils pour cibler. C'est vraiment des enquêtes ou autre. Donc, la personne, lorsqu'elle est en 100% en liberté, parce que dans la criminologie, il y a quand même beaucoup de manipulation, ben peut mentir sur son parcours, sur ses faits et gestes. Mm-hmm. Peut mentir sur ce qu'elle fait, puis faut lui donner une chance de. Donc, on va croire jusqu'à preuve du contraire, mais on va enquêter pareil. On a le droit de garder le doute, mais on n'a pas le droit de... faut que le doute soit assez important pour que la personne retourne en prison ou autre, même dans une maison de transition. Là. Pour avoir travaillé dans une maison de transition, si tu as un doute, t'es mieux de confirmer avec un autre collègue, t'as-tu le même doute que moi avant de faire retourner une personne en prison. C'est pas pour rien, parce que les détenus aussi ont des droits, puis c'est bien correct. Le bracelet électronique, ça brime pas au niveau physique, ça peut facilement être caché. Donc, tu ne vas pas être stéréotypé, tu ne vas pas être catégorisé à cause de ton bracelet. Puis, tu ne pourras pas mentir lorsque tu appliques à un emploi. Parce que tu vas devoir vivre avec le bracelet. Donc, tu sais, tu ne vas pas pouvoir... Il y a des emplois qui demandent la vérification d'un dossier criminel, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de payer pour la vérification d'un dossier criminel. Donc, tu dois vivre avec. Ça aussi demande à la personne qui a fait le crime, lorsqu'elle a un nouveau conjoint ou conjointe, parce que la violence conjugale, ce n'est pas que les hommes envers les femmes envers les hommes, ça existe.
Mais quand
c'est pas tant une question de chiffres. Les comportements violents, point. Moi, c'est... Puis, tu sais, on parle souvent conjoint-conjointe, mais les personnes de même sexe aussi. Tous les couples vivent. T'sais. Donc, tu sais, il ne faut pas stéréotyper juste à les hommes. Moi, je pense qu'il faut inclure toutes personne selon son genre, wow, toute la diversité, toute personne peut vivre de la violence et peut faire victime ou être agresseur aussi. Donc, soyons le plus inclusif possible. Bien, ça va permettre de distinguer, ça va permettre de tracer, ça va permettre à la personne d'aller chercher un pardon plus rapidement. Mais je viens de retrouver mon idée, ça paraît pas. C'est qu'en ayant un bracelet qui est un élément physique, qui est un élément visuel, cette personne-là va être obligée d'en parler à son nouveau partenaire.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont violentes à répétition. Donc, ça va permettre de protéger. Il n'y aura pas de mensonge face à ça.
Peut-être que ça va mener à des réels changements de comportement aussi.
Bien oui, parce que là, ça ne sera pas juste, des changements de comportement, tant que,
Mais moi, je me dis tant que ça stigmatise des gens, parce qu'il y a aussi ça, là.
Bien, c'est là que je pense que c'est une question de durée. Il ne faut pas que ça soit à vie. Il faut, faut que ça soit utilisé comme pour une période de grâce, pour une période de dire « laisse-moi te prouver que j'ai changé ». C'est ça qui va être le plus difficile à déterminer. Parce que il va y avoir des personnes qui vont en avoir besoin pendant 5 ans. Mais il y en a d'autres que ça va être 6 mois, 1 an, puis ils vont être capables de démontrer que... Donc, c'est vraiment une question de durée de cette procédure-là. Il ne faut pas que ça soit à vie. Il ne faut pas que ça soit... Une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as, que tu as vécu ça, puis une fois que tu as ton pardon, ou que, ben, plutôt que tu as ta liberté retrouvée, ben il faut que ça soit enlevé. Puis, mais il ne faut pas que ça reste à vie. Il ne faut pas que ça soit, tu sais, je ne sais pas, je ne suis pas criminologue, je ne peux pas donner de temps, puis je ne suis pas plus policière, je ne suis pas dans le domaine de la justice, ni dans le domaine pénitentiaire, mais il faut quand même déterminer une durée maximale pour l'utilisation d'un tel outil, parce que c'est un outil. C'est pas une ben façon
oui,
de...
Ça peut amener les gens à faire une, peut-être une meilleure réinsertion. Tu sais, je sais pas, moi, quand tu as ça, tu, je veux dire, tu dois vouloir... Je sais pas, mais moi, je crois à la réinsertion. On voit ce que ça donne, entre autres, en Suède, ils ont misé sur la réinsertion. Écoute, ils ferment des prisons, puis le taux de criminalité n'a pas augmenté, là. Mais parce qu'on a des bonnes méthodes pour le faire, je ne sais pas si bien, ça peut en faire partie.
C'est une affaire culturelle aussi. Le fait d'avoir vécu une criminalité, le fait de, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, mais c'est tellement un domaine qui est complexe, puis tout le monde a son avis dessus, que je vais me garder mon opinion, j'ai mon expérience. non, sérieusement, c'est très rare que je fais ça à l'émission aujourd'hui. Mais il y a tellement de côté être humain, la victime, le système, l'agresseur et autres, que...
Il n'y a pas de solution simple à un problème aussi complexe.
Non, puis c'est parce qu'en plus, il y a la politique qui rentre là-dedans. Mm-hmm. Il y a l'évolution culturelle, parce que la Suède, tu viens de faire une comparaison, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas les mêmes éléments culturels, ce n'est pas, le même droit criminel. Donc, qu'est-ce qui est un crime, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est pas toutes les prisons en Suède qui sont comme tu viens de le décrire. Donc, tu sais, il y a tellement de perspectives.
Tu sais, au Québec... Mais il reste qu'il y a une réalité, là. Ils ont misé sur la réinsertion. Nous, on construit des prisons. Eux, ils enferment. C'est quand même une réalité, là.
Mais, regarde, je vais te donner une réalité. Ouais. Je te donne une autre affaire, une différence entre le Québec et l'Ontario. Au Québec, on a le droit civil. Mmh. On ne l'a pas en Ontario.
Ben non, c'est le common law.
Ça reste quand même que ça...
C'est deux systèmes judiciaires
différents. Mm-hmm. Lorsque, peu importe le crime, lorsqu'un tu as une condamnation de 2 ans moins un jour, tu es dans un pénitencier québécois. Mm-hmm. 2 ans, tu es dans un pénitencier fédéral. Mm-hmm. Deux financements différents, deux fonctionnements différents, deux problématiques différentes. Est-ce que c'est ça en Suède?
Non, mais...
Ça change. Bien, ça change au niveau de la culture, de l'insertion aussi.
Ouais, mais là, je pense que tu fais un sophisme et qu'on parle pas de la même chose.
Mais je veux dire, c'est que c'est compliqué et tu sais, on pense que c'est juste les pénitenciers. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, je ne maîtrise pas assez le dossier pour aller plus loin. C'est vraiment que je me pose beaucoup plus de questions. Je pense à la violence conjugale, je suis 100% pour le port des bracelets électroniques tant et aussi longtemps qu'on détermine une durée, un cadre, puis...
Moi, j'espère que la durée, oui, mais que ça sera établi cas par cas, qu'on n'arrive pas avec des chartes de durée. Là. Je déteste ça quand on fait du mur à mur parce que c'est plus complexe que ça, la réalité de chaque situation.
Bien, je vais te donner un exemple très clair d'une personne que, sans la nommer. Son conjoint, son ex-conjoint violent, a eu le droit à son permis de port d'armes. Mais ceux qui ont fait leur permis de port d'armes savent que faut que ton ex-conjoint signe ton droit. Ouais. Il a juste menti auprès de la GRC pour dire « Non, moi, j'ai jamais eu d'ex-conjointe, j'ai jamais eu de violence conjugale », puis il a eu son permis de port d'armes pareil. Il a fallu appeler à la GRC pour dire « Non, la personne que vous avez donné le permis de port d'armes, non, elle a des accusations. » Ah ouais? Ah! Deux ans après, parce que la victime ne savait pas que le permis de port d'armes demande ça.
Je comprends, mais là, pour moi, c'est la GRC qui a fait un manquement. Là. Je veux dire, ben, on doit se fier à des données empiriques, à des résultats. Ils ont accès au système de police, là, dans le sens qu'ils sont capables de voir s'ils ont un dossier criminel de manière assez rapide. S'ils ne l'ont pas fait, c'est eux autres qui ne sont pas
bons. C'est que là, si ça n'a pas passé au criminel, mais c'est un dossier de DPJ,
Ouais.
C'est pas un dossier criminel. Donc, il n'y a pas accès à ça.
Pour le parent, que... pour les enfants?
Ou... Non, mais c'est ça pour les parents, non. Parce que c'est pas dans un dossier criminel, il n'y a pas de jugement de la cour. Il y a un dossier au niveau de l'intervention sociale, mais il n'y a pas de jugement de la cour. Donc, c'est pour ça que dans le formulaire pour le possession-acquisition, il faut la signature d'un ex-conjoint pour dire « Oui, je me sens assez en confiance pour que cette personne-là ait une arme. »
OK.
Donc, le bracelet, le... tout ça ferait que ça changerait. C'est la perception de ça. Il faut aussi dire que ce serait aussi un outil de sensibilisation. Parce que ça peut être n'importe qui peut vivre et faire vivre la violence conjugale. Ça, oui, on stigmatiserait, mais en même temps, on déstigmatiserait les victimes. Parce que ça arrive à n'importe quel âge, ça arrive à n'importe quel statut, ça arrive à... ça peut arriver à tout le monde.
Hey, là, on va essayer de faire un autre sujet en 5 minutes parce que tu en as un peu parlé, mais je voudrais qu'on parle de la DPJ et la commission Laurent qui est sortie. Bon, qui n'a pas dit grand-chose, hein? faut formater tout ça, un peu ce qu'on a dit. Mais ça reste que c'est une problématique majeure. Malheureusement, on parle de la DPJ beaucoup quand c'est les gros cas graves, quand c'est les baveux, etc. Puis la DPJ, moi, je tiens à dire qu'il donne aussi des super services aux citoyens que je pense que les gens n'osent pas prendre à cause que c'est la DPJ et qu'ils ont mauvaise presse. Mais il reste que c'est des intervenants et que c'est des situations pas faciles qu'ils ont à gérer. Moi, j'aimerais pas ça être dans le culotte. Puis là, bon, on sait pas grand-chose, mais ce serait quoi toutes les recommandations que tu trouverais efficaces ou qu'on t'as l'impression qu'on aurait besoin au niveau de la protection des mineurs?
La première chose, c'est déstigmatiser ce qu'est la DPJ, parce que oui, c'est le département de la protection de la jeunesse, la direction de la protection de la jeunesse. Donc, premièrement, féliciter les travailleurs et travailleuses sociales qui sont déjà dans ce domaine. Donc, c'est la majorité des gens qui sont là, d'avoir une reconnaissance de leurs compétences puis une augmentation des effectifs parce qu'il manque de professionnels pour être capable d'encadrer les besoins.
Mais ça, je pense que la Commission Laurent va le dire.
La Commission Laurent va sûrement le dire. Le financement, on est quand même limité, oui, mais c'est important quand même de penser au financement parce que c'est le dernier rempart pour protéger nos enfants.
Moi, ce que tu viens de dire, là, pour moi, c'est complètement absurde là, de dire qu'il faut faire des choix économiques. Pour moi, les enfants, là, on devrait ouvrir les valves puis mettre tout l'argent qu'on peut.
C'est ce que je pense aussi.
De donner des subventions à Heinz. Là, tu sais,
c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je suis tout à fait d'accord. Repenser les outils. Puis les outils d'évaluation qui sont faits par la DPJ, parce que depuis le début de la commission Laurent, il y a des logiciels qui sont utilisés, qui sont mal faits, qui sont mal... Donc, ce qui permet des dératages par des personnes professionnelles et sensibles.
Mais ça me fait halluciner. C'est des rapports humains tellement intenses. Et là, on te dépiste avec un logiciel où il faut cocher des trucs dans des cases. Voyons, c'est du
cas. Puis le logiciel qui a été démontré qui était mal programmé.
Mais non.
Ou que les personnes d'expérience arrivent aux plus jeunes et disent « Réponds telle affaire pour que ça donne la réponse que tu veux. Ouais. » Ça n'a pas d'allure.
Mais non.
Donc, il faut repenser parce que là, on a comme mis un système... fonctionnaires, bien, c'est des fonctionnaires, oui, mais un système, je dirais, les 12 travaux d'Astérix pour des personnes qui ont besoin d'aide socialement. Parce que c'est surtout ça, maintenant, dans un système qu'il faut revoir les outils, c'est pas facile, c'est compliqué, mais il faut revoir les outils, revoir la formation, sensibiliser, puis... féliciter, mais aussi valoriser l'emploi à la DPJ. Parce que présentement, les travailleurs sociaux qui sortent, ils se disent « on ne veut pas travailler là, on va être en surcharge de travail, on est payé juste 40 heures, mais on en fait des 60, des 70, des 80 heures. »
Un peu comme une infirmière dans le système de la santé.
Oui. Puis on se fait chier dessus, on se fait... Puis c'est parce qu'ils ont des données, on a tous un avis dessus, mais ils ont des données que nous, on n'a pas, ils ont tout un droit légal.
Dans n'importe quel job, là, on te permet de faire une erreur. Mais eux, on ne leur permet pas.
Ah, puis c'est pas...
Puis je comprends pourquoi on ne veut pas leur permettre, parce que c'est la vie puis la santé de l'enfant, là. Mais oh, c'est humain
mais
de faire des erreurs.
Hein. Mais on ne reconnaît pas leurs compétences non plus.
Non, puis on devrait les faire travailler beaucoup plus conjointement avec le corps policier aussi, comme on parlait des travailleurs sociaux là, au niveau des patrouilles de police pour les cas de santé mentale. Je pense que...
Mais ça, je te dirais que c'est pas un problème parce que la police n'a pas peur d'appeler la DPJ, les systèmes de... Ça, c'est pas un problème. C'est pas la relation avec la police. Je te dirais que c'est plutôt la relation... puis même les organismes communautaires qui travaillent avec la DPJ apprécient le travail avec la DPJ, puis reconnaissent que c'est vraiment des... La DPJ, au niveau humain, au niveau de l'individu, ils ont des bonnes valeurs, mais c'est les ressources pour l'appliquer. Ils doivent faire des choix déchirants. C'est des choix déchirants qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Donc, il faut se poser la question, quand on a une opinion sur la DPJ, il faut se dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu pour qu'ils prennent ces décisions-là.
Oui, puis quand on a une opinion sur la DPJ, c'est parce qu'il sort une histoire dégueulasse qui a peut-être mal été gérée, parce qu'on ne parle jamais des histoires qui se gèrent bien ou qui, des choses qui se passent de la manière dont ça doit se passer. Il y a ça aussi à
mettre. Oui, parce qu'il ne faut pas avoir peur aussi, en tant que parent aussi, d'aller demander de l'aide.
Non.
Ben, parce qu'il y a ça aussi qui est très trop peu connu. C'est que c'est pas tous les enfants qui sont faciles, c'est pas tous les parents qui sont outillés, c'est pas...
Absolument.
Donc, appeler nous-mêmes la DPJ pour dire « je suis à bout », c'est s'éviter d'avoir une poursuite par la DPJ puis de ne pas s'en faire des alliés.
Ouais.
Au contraire, il y a des gens qui sont là puis ils vont beaucoup plus apprécier travailler avec une personne qui va dire « j'ai un problème, je veux aider, je suis prête, participer », puis prendre de l'avant, de faire de la prévention ou de dire « envoyer un signal, je dis « j'ai besoin d'aide », c'est beaucoup plus facile de travailler dans cet angle-là que d'arriver puis de se dire « ils vont me prendre mes enfants ». J'ai eu un signalement à DPJ, ils vont me prendre les enfants. Parce que ça arrive, ça, des fois, c'est pas mal vu. C'est qu'un enfant arrive avec beaucoup de bleu à l'école. Bien, l'école a un besoin de…
Une obligation. Moi, comme enseignant, si je vois des cas, là, c'est sûr que je suis au cégep, ça arrive moins, mais comme enseignant, on a l'obligation de signaler si on pense qu'il y a un problème.
Puis quand quelqu'un qui arrive, ben pour une autre personne que je connais, ben l'agent de la DPJ est venu, elle dit on a eu un signalement, puis elle a vu que l'enfant était turbulent, puis elle a vu qu'il s'est blessé en pleine face, devant elle, elle dit OK, c'est beau. Ouais. C'est pas juste. La DPJ, c'est pas on enlève les enfants.
Hey! C'est super intéressant, puis je le sais qu'avec toi, on pourra en parler pendant 16 heures.
Oui.
Mais il reste moins de 5 minutes et je voudrais vraiment qu'on parle de notre dernier point, finir 2020 avec ça, vaccin contre le COVID. On commence à en entendre parler. La Grande-Bretagne a homologué le premier vaccin. On parle déjà d'à partir de la mi-décembre, on va pouvoir vacciner les gens. Aux États-Unis, on dit que je ne sais plus combien de millions de personnes vont être vaccinées d'ici juillet. Ici au Canada, on parle de 3 millions d'ici pour le mois de mars. Comment ça va se passer? On sait que l'armée est déjà prête à vacciner. Comment tu vois ça, toi, l'avenir avec un vaccin? Puis il y a aussi toute la mouvance anti-vaccin qui existe, qui clairement, eux, n'ont pas lu des études scientifiques, là, parce que, je veux dire, vacciner, c'était démontré par la science depuis, tu sais, on a éradiqué
ben,
combien de
maladies? Les mêmes personnes qui disaient je veux pas respecter le masque ou autre, je veux pas. Disent, ben là, il n'a pas été assez testé, je ne me ferai pas vacciner. C'est exactement les mêmes personnes qui ont un comportement complètement opposé. Et ben, je trouve ça drôle, OK?
Oui.
Ça faut en rire parce que ça donne le goût de pleurer.
Puis moi, je veux dire une petite affaire là-dessus qui me fait rire. Là. C'est ceux qui ont peur du vaccin en disant, il va y avoir une puce électronique pour qu'on sache où tout le temps. Hey, man, t'as un téléphone, là? Tout le monde le sait, tous les GAFA de ce monde te suivent à la trace déjà. Là. T'as pas besoin.
T'as-tu vraiment peur qu'un système de santé qui fonctionne encore par fax te mette une puce pour te tracer? Excusez, hey, si soyons bien clairs. Là. Ça, c'est. Donc, ça, on va se le dire. Enfin, soyez un peu logique dans votre fonctionnement. Mais pour les vaccins, il y a plusieurs sorties qui arrivent. C'est très intéressant. Cependant, il faut.
C'est vrai que c'est rapide. Fait que peut-être qu'on va se poser des questions sur les études.
Et
c'est
nécessaire. Ouais. C'est nécessaire. C'est bien d'avoir l'esprit critique. C'est bien de voir. Là, il y a 4-5 vaccins qui ont été homologués dans différents pays avec des taux de succès entre 70 et 95 %, ce qui est excellent pour un vaccin.
Absolument.
Mais il y a une chose que moi, je me demande, c'est quel type de vaccin? Parce qu'il y a les vaccins où c'est amenuisé. Il y a tellement de types de vaccins que si, par exemple, tu as un vaccin qui est encore vivant, mais amenuisé, ben tu ne le donnes pas à quelqu'un qui n'a pas de système immunitaire. Mm-hmm. Donc, c'est tout ça qui va se poser comme question, en plus du transport, parce qu'un des sujets, c'est un des plus commandés des vaccins, doit être gardé à moins 60 degrés Celsius avant l'injection.
Avec l'hiver qu'on risque d'avoir, ça va être compliqué.
Ah, bien, il n'y a pas juste ça. C'est que les seules installations dans les villes où qu'il y a, c'est dans les hôpitaux où qu'on a ça. Donc, c'est transporter des gens dans les hôpitaux qui peuvent le faire. Donc, il y a puis c'est deux injections en 21 jours. Il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Donc, si vous êtes... Moi, je vous le dis, si on commence la vaccination avant notre prochaine émission, moi, je vais aller me vacciner. Je vais aller me faire vacciner parce que je suis en forme, je suis en santé, puis je sais que ça va... je sais que je vais avoir fait un effort. Ça ne coûte rien, tabarnouche. Avez-vous conscience qu'au Canada, cette vaccination-là, qui nous empêche d'avoir un développement économique, qui nous permettrait de... va ne rien nous coûter à nous, de nos poches. Oui, va nous coûter dans la dette. Oui, va nous coûter dans nos impôts.
Dans nos impôts nos
mais
têtes.
C'est historique qu'un vaccin pour une pandémie mondiale soit découverte en moins de 18 mois, soit distribué en moins de 18 mois.
Ouais.
On parle de quand même des phases ultra longues avec des développements puis des partenariats avec différents pays, différentes entreprises qui veulent... Donc, c'est historique. Ce vaccin-là n'aura pas été étudié à grande échelle. Tu sais, Ebola, là, ça date depuis 1972. Ils ont trouvé un vaccin cette année.
Ils ont trouvé un vaccin parce qu'ils ont commencé à faire des recherches sur le vaccin quand
en 2015.
Quand il est mort un gars aux États-Unis. Parce que, tu sais, on sait bien que donc, ceux qui font les vaccins veulent les vendre aussi, là.
Donc, dites-vous que c'est historique. Mm. On est dans une phase historique. Donc, moi, je sais, je suis en forme, je suis en santé, je suis capable, puis je suis dans la population à risque parce que je suis asthmatique. Mais je vais y aller. Je vais y aller parce que je vais augmenter l'immunisation collective parce que je vais moi, en faisant la période test, parce que ça, on ne se cachera pas dans les premières vaccinations, ça va être du test. Parce que plus tu as de monde, plus tu as de risques. Bien, je sais que ça va être de plus en plus sécuritaire pour les gens, que c'est plus dangereux.
Oui.
Donc, on a de la chance, on vit quelque chose d'historique. Donnez-vous la chance de le vivre. Puis, en vous vaccinant aussi, peu importe la maladie, dites-vous que vous protégez ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner.
Bon point. Merci, Joannie Riendeau. Un plaisir d'avoir traversé 2020 en ta compagnie. On te souhaite un joyeux temps des fêtes.
Toi aussi.
Et puis une année 2021 remplie que de bonnes nouvelles, on l'espère.
Non, ça ne fait pas des bons sujets.
Ben, j'avoue. Et vous, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Hein? Merci. On est là, on essaie de réfléchir. On n'a pas la vérité, mais on espère, on espère faire une différence. Et surtout, vous apporter la nouvelle locale, l'analyser, la réfléchir avec vous. Merci de continuer à nous suivre. Et on se dit à l'an prochain, donc en 2021, pour une toute nouvelle saison de Qu'en pensez-vous?
Ciao!
Ciao! Bon temps des fêtes!